pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les radios associatives ou libres, elles sont désignées ainsi, validées ainsi par la loi, parce qu'on leur confère une mission de communication sociale de proximité. Les missions de lien social, diversité musicale, culturelle, linguistique. Et c'est ça, une radio associative. Vous voulez parler de la qualité des radios? Ben allons-y. Parlons de la communication sociale de proximité. On remplit ce rôle, oui ou non? C'est ça qui fait qu'on a notre place dans le paysage audiovisuel, qu'on n'est pas des radios 100% publiques, qu'on n'est pas des radios privées qui fonctionnent à la pub. Parlons-en de la communication sociale de proximité, il y a un vrai sujet là-dessus.
Les radios associatives ne sont pas que des robinets à musique. Elles ont des missions d'information, de formation, de création, d'entretien de liens sociaux, culturels, associatifs, et j'en passe. Mais en cet automne 2024, nos radios libres sont en danger de mort. Si le projet de budget Barnier passe, dès l'an prochain, c'est 200 radios qui ferment, 800 emplois détruits et un peu partout des foyers de vie et de cohésion sociale qui disparaissent. La menace, c'est l'amputation de 30% du FSER, fonds de soutien à l'expression radiophonique versé par le ministère de la Culture, FSER qui représente en moyenne 40% du budget des radios associatives. Alors qu'il manquerait des dizaines de milliards pour boucler le budget de l'État, on chercherait ici à économiser 10 misérables millions sur les 35 que coûte le FSER, un objectif ridicule, à moins qu'il ne s'agisse d'un coup politique. Mais donné par qui? Même Rachida Dati semble surprise par cette agression qui concerne pourtant le budget de son propre ministère. Salut les amis, c'est JBD pour La Voix Off, radio libre en danger de mort. On en parle tout à l'heure avec Christophe Bedbeder du SNRL, Syndicat National des Radios Libres, qui ouvrait cette émission d'urgence. Mais avant cela, la parole à Brian de la Radio Graphite à Compiègne. Brian occupe des fonctions au FSER en tant que membre du Syndicat National des Radios Libres. Il nous explique ce qu'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Bonjour Brian.
Salut JBD.
Tu es un historique de Radio Graphite à Compiègne. Tu es conseiller prud'homal?
Absolument.
Quelles sont tes fonctions au FSER?
Alors moi, je suis représentant suppléant de Michel Lestel, qui est la titulaire. Donc je représente les radios au titre du SNRL, qui est le Syndicat National des Radios Libres, qui est le syndicat majoritaire sur la branche de la radiodiffusion. Donc en gros, on est là pour instruire les dossiers avec les instructeurs du ministère, de la DGMIC, hein, qui est la Direction Générale de l'Information. Et on est là surtout pour leur donner une vision de terrain, puisque eux connaissent les radios via les dossiers. Et nous, on connaît les radios via des rencontres qu'on a avec eux, via des échanges qu'on a avec eux, et surtout pour leur expliquer un peu le langage qu'on utilise. Il y a 2 commissions par mois. Chaque mois, on instruit 70 dossiers qui sont envoyés notamment pour la subvention sélective. Chaque mois, on reçoit les dossiers des 70 radios qui sont le bilan de l'année, avec des attestations pour prouver leur action. Donc, elles ont des missions de service public et à ce titre-là, elles touchent 2 subventions. La principale du FSER, c'est l'exploitation. Tu as des recettes d'argent, tu rentres dans une tranche, on te donne tant d'argent. Et ensuite, il y a une sélective. Là, tu as des missions de service public, c'est-à-dire lutte contre les discriminations, développement culturel, développement local, puis des critères annexes. Et en fonction de ça, il y a une note qui est donnée au dossier. Cette note a une valeur chaque année, donc on a une deuxième petite partie de subvention qui arrive. Mais aujourd'hui, la subvention FSER, aussi bien en exploitation, en sélective et en installation, c'est-à-dire en achat d'équipement, ça représente en moyenne 40% des subventions. Il y a des radios, c'est 80% de leurs subventions à l'année.
Plus les radios ont d'action, plus elles touchent dessous.
C'est ça.
Tu aides à lire un peu, à donner de la visibilité à l'action de ces radios.
On a une vision plus de terrain, donc il y a des échanges entre les instructeurs. Les instructeurs viennent avec une note, puis on discute, savoir si on est d'accord sur cette note. Des fois, on rajoute un point en plus. On ne demande jamais de points en moins, nous, en tant que représentants. Ce n'est pas notre travail de faire ça. Mais souvent, les radios qui ont un bon travail et qui ça se retransmet pas très bien dans leur dossier, on essaie de pousser pour que le ministère et que la commission leur remettent un point en plus. Donc, ils soutiennent financièrement avec un soutien plus important.
Parlons du paysage de nos radios libres ou radios associatives.
C'est 746 radios en 2023, donc c'est dom-tom inclus, évidemment, puisqu'il y a des radios à La Réunion, dans les Antilles, des territoires ultramarins qui sont également couverts et qui ont le droit à FSR.
Alors, on va pas se lancer dans une grande histoire de l'épopée des radios, d'abord pirates dans les années 70, puis libres au fur et à mesure des années 80. Nos radios associatives, nos radios locales, nos radios libres, elles sont une quasi-exception mondiale. C'est un joyau national et c'est un modèle de médias indépendant unique au monde.
Oui, Cocorico, pour une fois Cocorico. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un fonds qui a été créé en 82, qui a permis d'abord le développement des radios, puis ensuite la consolidation, mais vraiment du secteur associatif radiophonique. Puisque, à la base, quand les radios ont été, entre guillemets, libérées, même si elles n'avaient pas le droit, certaines radios se sont engouffrées dans la publicité. Donc, il a fallu un peu réguler tout ça. Donc, on a dit aux radios associatives, pour vous, on vous fait un fonds qui vous permet de vivre ou de survivre. Mais en échange, vous ne pouvez pas faire plus de 20% de vos recettes en revenus publicitaires. Voilà du coup la contrainte de la création du FSER.
Ces sous du FSER qui permettent à ces 746 radios associatives de vivre, ces sous, ils viennent d'où?
C'est vrai qu'historiquement, c'est une taxe parafiscale sur les régies publicitaires. Plus il y avait d'argent dans ces régies, plus elles payaient de taxes qui étaient reversées directement aux radios associatives. Ensuite, l'Europe a interdit cette histoire de fléchage où les taxes étaient directement attribuées. Donc, on est devenu une ligne budgétaire du ministère de la Culture. Et là, ils vont se poser la question de savoir comment on fait pour que ça ne devienne pas une ligne du budget, une ligne qu'on peut modifier. Alors voilà, donc historiquement, c'était une taxe parafiscale sur les régies. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est au bon vouloir des politiques et notamment des politiques budgétaires.
Mais je trouve presque étonnant que ça n'arrive que maintenant et qu'il nous ait quand même relativement fichu la paix pendant quelques décennies.
Et on est des médias, donc il y a aussi un intérêt sur la pluralité du paysage audiovisuel, sur la démocratie. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éducation aux médias aussi qui est fait par nos structures. Si on met le coût auditeur et ce qui est mis sur la table, c'est un secteur qui ne coûte pas très cher. Et on a évidemment des gens qui sont cartés aussi en tant que journalistes. Donc ça peut faire poids, puisque c'est quand même une corporation qui a assez de poids encore aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on est passé peut-être entre les gouttes, même s'il y a eu des années qui ont été plus fastes que d'autres. Il a fallu parfois mener des batailles moins lourdes que celles qu'on a aujourd'hui. Surtout que celle-ci, elle est un petit peu surprenante, c'est que 15 jours avant, on nous a annoncé un plan d'aide de l'ordre de 2,3 millions en aide au soutien en milieu rural. Donc on se dit, c'est trop bien, on va pouvoir dire aux radios qu'il va y avoir de l'argent en plus. Et en fait, 15 jours plus tard, on apprend qu'il y a 10 millions en moins pour l'ensemble des radios. Donc voilà, c'était la douche écossaise.
Est-ce qu'il faudra en déduire que des radios rurales vont continuer à exister, voire même à être aidées, et que des radios urbaines vont mettre la clé sous la porte ou virer la moitié de leurs salariés?
Non, je pense pas, parce que justement, les radios rurales, elles ont vraiment des difficultés. C'est pas pareil, si je prends l'exemple de Tours, en termes de développement culturel, tu veux faire une interview d'un acteur, tu fais 2 km en vélo, tu peux aller faire une interview. Il y a des milieux ruraux, ou je pense au milieu même ultramarin, ou dans les montagnes, pour aller dans le village d'à côté, qui est à 10 bornes de chez toi, t'es obligé de prendre la voiture, faire une demi-heure de route. Donc non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que déjà, Rachida Dati avait dans le plan de la ruralité une aide sur les radios rurales et que c'est un petit peu sorti du chapeau, cette histoire de baisse de 10 millions. On ne sait pas si c'est un élu ou quelqu'un dans un ministère ou qui a pris cette décision. On n'a pas d'informations sur d'où vient, entre guillemets, cette attaque. Mais étrangement, on a quand même du soutien de la part du ministère de la Culture. Rachida Dati a dit qu'elle allait tout faire pour essayer de maintenir ses ressources. On a également le soutien récemment là, de la ministre de l'économie sociale et solidaire, puisque nos structures font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc on ne sait pas d'où ça vient.
Tout simplement regarder le paysage politique avec un Front National, je dis toujours Front National, très puissant. Quoique nos radios libres, on pourrait se dire qu'elles sont toutes de gauche, mais pas du tout. Elles couvrent un éventail politique qui va de 13 à gauche jusqu'à 13 à droite.
Puis il y a des radios qui ne sont pas du tout politisées, il y a des radios qui sont vraiment des radios de territoire. Donc évidemment, si le Front National ou le Rassemblement National fait des percées dans des territoires, potentiellement les animateurs qui animent ces radios peuvent être des électeurs du Rassemblement National. Et ce qui est étrangement assez surprenant pour nous, c'est que dès le début, justement, le Rassemblement National a apporté son soutien à certaines radios de territoire. Moi, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Les élus ont apporté leur soutien aux radios locales et associatives.
Peut-être qu'un élu localement, pour lui, c'est pas génial sur un bilan électoral, la disparition d'un média. Puis après tout, quand on a des choses à faire savoir, on est toujours content en tant qu'élu d'avoir des micros qui se tendent vers vous.
Oui, et puis les électeurs écoutent la radio. Hein. L'émission d'accordéon, il n'y a pas de politique dans une émission d'accordéon. Quand tu écoutes ton émission d'accordéon, si demain ta radio elle disparaît pour l'émission d'accordéon ou même pour la voyance, il y a des émissions qui font de la voyance. les auditeurs vont pouvoir aller frapper à la porte de leurs députés, leur dire, bah, attends, ils n'ont plus d'argent pour pouvoir. Moi, c'est ce qui me divertissait. Il y a un très bon reportage d'un documentaire belge, notamment sur une radio qui est en milieu rural, qui s'appelle Radio Plus Haleine. Ce reportage s'appelle Silence Radio. Et en fait, on voit vraiment l'intérêt d'une radio associative locale en milieu rural, c'est la seule fenêtre sur l'extérieur. C'est-à-dire, bon, là, c'est assez larmoyant, c'est beaucoup des personnes âgées qui ne sortent pas de chez eux. Et eux, ça leur rappelle bah, leur jeunesse, quand ils allaient au bal, ça rappelle la famille décédée. Et en fait, on se rend compte que la seule fenêtre sur l'extérieur, c'est vraiment leur radio associative, leur radio locale.
Je pense aussi à des cas concrets de radio de montagne. La radio est l'un des rares liens. Il y a une vraie utilité publique et de vaincre l'isolement aussi, dans certaines vallées.
C'est un média qui est assez flex à remettre en place, notamment la radio FM, c'est-à-dire que demain, on a une catastrophe. On les a vus avec les épisodes Cévenol, où il y a des vallées qui sont ravagées. Une radio, pour couvrir un territoire, eh ben, c'est un émetteur, un générateur d'énergie avec du pétrole. Quand tu es chez toi, il suffit d'avoir une petite radio à pile, et puis tu vas savoir que tu vas pouvoir chercher la flotte au village à telle heure, alors que tu n'as plus de téléphonie, tu n'as plus de télévision, tu n'as plus d'Internet. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, sur des pays comme Haïti ou ce genre de choses, bah souvent les premières choses qui sont mises en place c'est la radio parce que c'est un moyen de communiquer. De toute façon on vous le dit, c'est que s'il y a une catastrophe séisme, catastrophe industrielle, en principe c'est rester chez vous et branchez-vous sur le service public et sur les radios locales. Dans les faits, nous aujourd'hui on n'a aucune information avec la préfecture pour nous dans l'Oise sur qu'est-ce qu'on doit faire s'il y a une catastrophe industrielle à côté de chez nous, mais dans les documents qui sont envoyés c'est souvent marqué écoutez le service public et les radios locales pour avoir l'information.
Radio d'urgence ?
Dans les faits, c'est ce qu'on est. Hein.
On a parlé de quelques fonctions des radios, hein, donc écouter l'accordéon ou nos musiques préférées, avoir aussi les infos locales de concerts ou de foires à la brocante ou de être radio d'urgence. Il y a aussi toute la dimension pédagogique, c'est que nombre de nos radios font des ateliers, notamment en milieu scolaire. Nos radios aussi, elles sortent de leur studio pour aller faire des trucs avec les gens.
De plus en plus, en plus, c'est qu'il a fallu pallier des baisses de subventions en local. Les collectivités locales sont de plus en plus frileuses à donner de l'argent en fonctionnement. Souvent, elles le donnent sur des projets. Et c'est vrai que l'éducation aux médias, on est quand même sur le terrain. Là, il va y avoir une enquête qui a été réalisée l'année dernière. On devait la sortir courant du mois de novembre pour le congrès du SNRL, du Syndicat National des Radios Libres. Finalement, on va sortir en avant, mais on se rend bien compte que oui, les radios sont présentes sur les territoires, font de l'action culturelle, font de l'éducation aux médias et surtout former des citoyens à être des citoyens éclairés. On parle souvent de la propagande qui viendrait de l'Est, qui viendrait manipuler les citoyens français. Et ben, il faut aussi pouvoir donner un peu de billes aux citoyens pour savoir comment on vérifie une info, comment elle est fabriquée, à qui appartient certains médias. La propagande ne vient pas forcément de l'Est. On peut le voir aussi sur le paysage français. Est-ce que c'est des oligarques qui ont des chaînes de médias? Quel est leur intérêt pour eux? Ben voilà, il faut aussi que les citoyens puissent apprendre tout ça. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Donc nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles et on apprend aux gamins, parfois pas que aux gamins, puisqu'on touche un public autre que des enfants, comment c'est l'éducation aux médias et à l'information.
Donc un paysage de radio très varié dans leur santé, très varié politiquement. C'est qu'on se dirait, ouais, les radios libres, c'est un truc qui vient des radios pirates, donc des affreux gauchistes barbus des années 70. Bah non, en fait. Dans nos 746 radios, il y a aussi tout le réseau radio chrétienne de France, les radios RCF. Paysage très varié.
Radio laïque, confessionnelle, les scolaires, les universitaires, les radios alternatives, communautaires, spécialisées, enfin on a de tout, hein. Sur le handicap, sur la musique alternative, bah, je ne sais pas si on reprend l'exemple de Béton, c'est pas que la radio, c'est aussi ce qui a pu permettre de faire un festival alternatif. Quand on parle de Tours par exemple, on parle des groupes qui viennent de Tours, ça sert aussi ça une radio, c'est que derrière les gens ils se rencontrent. On parle des emplois parce que c'est ce que les gens comprennent, mais c'est vrai qu'on est aussi des carrefours de rencontres, des groupes qui vont se rencontrer, qui vont discuter, qui vont monter des choses après. Nous, il y a des assos qu'on reçoit, on leur file des coups de main, en leur expliquant bah tiens, il y a peut-être cette subvention-là qui pourrait t'intéresser, ou il y a cet appel à projet. Voilà, on est vraiment des carrefours.
Oui, mais alors Brian, il faut rester sérieux et comptable. Hein. La France est devenue un pays du tiers-monde, plus les moyens de payer les retraites, les hôpitaux, les écoles, tout ça. Donc, il faut faire des économies. Sabré, 40% du FSER, finalement, ça quoi comme économie?
C'est ça, en plus, ce qui est assez dingue, c'est que c'est un peu une paille. Alors évidemment, on parle d'économie. Quand ils ont sorti le PLF pour le budget du ministère de la Culture, il était stable. Comme c'est en milliards, les 10 millions qui avaient disparu, on ne les voyait même pas au départ dans le dossier principal. Il a fallu ensuite qu'on aille à l'intérieur, voir dans les annexes, comment ça se passait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les 10 millions allaient disparaître.
C'est 10 millions?
10 millions sur 35 millions. Pour le budget, c'est rien du tout.
Ce fameux FSER, là, c'est 35 millions d'euros.
Pour le FSER, tout réuni, c'est 35 millions. Et là, on va nous retirer un peu plus de 10 millions.
Donc, si ce budget était voté, si cette amputation du FSER avait lieu, c'est combien d'emplois menacés ?
Alors là, en CDI, en emploi direct, c'est 800 emplois directs, mais on compte que les emplois de notre branche, c'est-à-dire que de la radiodiffusion et du journalisme.
800 emplois menacés ?
Menacés, ouais.
Sur combien environ ?
La branche, c'est 3000 salariés, pour la branche de la radiodiffusion, en vrai.
Et l'an prochain, dès 2025, près de 200 radios qui ferment.
C'est ça. Et à côté, il y a quand même tout ce qui va tomber par ricochet ou par effet domino, c'est-à-dire que c'est de l'argent en moins pour les droits d'auteur, c'est-à-dire que les artistes vont moins cotiser, par exemple, à la SACEM, à la SCAM pour les auteurs audiovisuels, donc il y aura moins d'argent. Évidemment, moins d'argent pour la sécurité sociale, hein, puisque si on est au chômage, on ne cotise pas pour la sécurité sociale. Il y aura moins d'argent pour les gens qui proposent des formations, puisque chaque année, aussi, dans le FSER, on est obligé de former nos salariés. Donc là, automatiquement, il va y avoir des boîtes de formation qui vont fermer parce qu'elles auront moins de personnel. On voit les 800 emplois directs, malheureusement, on ne parle que des emplois. Derrière, il y a quand même tout un système de dominos qui va se mettre en place. Si c'est mis en place, peut-être qu'il y a quelques radios qui vont survivre sur l'ensemble des radios, même s'il y en a 200 qui meurent l'année prochaine. Bah, l'année suivante, on pourra toujours aller baisser les subventions de celles qui restent et elles seront beaucoup moins nombreuses pour créer une dynamique et créer un rapport de force pour maintenir leurs subventions. Moi, je prends l'exemple, parce qu'on dit oui, ça coûte cher, vous n'avez pas beaucoup d'auditeurs. Déjà, c'est faux. Il y a des auditeurs qui nous écoutent, hein, puisque même si les enquêtes médiamétrie ne sont pas très favorables, leurs calculs sur nos radios, il y a quand même 2 millions d'auditeurs qui sont comptabilisés par médiamétrie.
Nationalement.
Nationalement. Donc, je pense que c'est un chiffre qui est déjà minoré. Quand on te propose, est-ce que tu écoutes France Inter ou Graphite, direct, tu vas penser au plus gros. Si je prends l'exemple de tes courses, est-ce que tu vas à la supérette en bas de chez toi ou à Carrefour? Bah, tu vas dire que tu vas à la Carrefour parce que tu vas faire tes 250 euros de courses à Carrefour et que tu vas acheter 20 euros dans le commerce d'en bas. Mais le commerce d'en bas, il est aussi important pour ton quartier, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Et souvent, je prends l'exemple des terrains de foot. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs dans les tribunes des stades de foot de village qu'on va arrêter de les subventionner. Parce que derrière, bah, y a des petits clubs, les gens, ça permet de se rassembler, de faire du sport, de se retrouver, peut-être de détecter des talents. Souvent, les radios associatives sont les premières radios qui emploient les talents qu'on retrouvera demain dans les radios nationales. Chez nous, on peut tester des choses qu'on ne pourra pas forcément tester sur des radios plus établies, même si on a des émissions de qualité. J'ai commencé à l'âge de 16 ans à la radio. Aujourd'hui, la première émission que j'ai faite, j'en ai honte. Mais c'est le cheminement qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des interviews un peu structurées et d'être un peu plus fier de mes émissions. Un exemple très drôle, quand on a rencontré la ministre de l'économie sociale et solidaire, quand on lui a parlé de la radio associative, elle nous a dit « Ah, mais oui, moi aussi, dans les années 90, j'avais une émission sur Radio Cumulis dans ma ville à Fécamp, j'ai fait une émission musicale, tout. » Donc en vrai, voilà, on peut commencer de la radio associative et puis finir aujourd'hui dans les ministères. Donc c'est quand même un milieu qui est très formateur.
Tu mentionnais un chiffre là, minoré, disais-tu, de 2 millions d'auditeurs sur le territoire national. Je trouve ça toujours un peu chelou, ces mesures médiamétrie. Miraculeusement, quand on paye un sondage à médiamétrie pour savoir si les gens nous écoutent, d'un seul coup, on apparaît. Quand ils m'appellent, ils me disent « Est-ce que vous écoutez Énergie, France Inter ou Sky ?» Ils me demandent jamais si j'écoute Radio Béton. Je suis obligé de le dire que j'écoute Radio Béton du matin au soir.
Quand j'étais plus jeune, j'ai bossé chez Médiamétrie Amiens, où j'ai participé à des enquêtes, pas pour de la radio, mais j'ai vu comment ça se passait.
Bah, ils sont de qui déjà? Ils les trouvent comment, les gens, dans l'annuaire?
Non, en fait, c'est pas dans un annuaire. En gros, il y a un logiciel qui implémente des chiffres sur un numéro de téléphone. Et quand tu as la personne au téléphone, en général, tu lui poses des questions sur son âge, où est-ce qu'elle habite, quelle est sa qualité socio-professionnelle. Et en fonction de ça, tu fais appel à ton chef de plateau et tu lui dis bah voilà, j'ai un quadra CSP+, qui habite dans telle ville. Lui, il va faire un petit tour dans ses fiches, il va dire bah c'est bon, on en a besoin pour nos statistiques, on a genre besoin, je sais pas, de 30 personnes dans cette catégorie-là, et voilà comment ils font. Il y a des biais statistiques, tout ça, on peut critiquer les stats, mais après, c'est quand même une science. Pour l'histoire de médiamétrie, c'est pas l'histoire que tu sois nommé quand tu fais l'achat médiamétrie de cette enquête. Quand tu l'achètes, t'es mis dans le listing. Parce qu'ils veulent vraiment avoir des résultats sur ta radio. Quand tu ne l'achètes pas, en fait, tu peux être cité par les auditeurs, mais pas forcément dans les 60 radios. Parce que, alors, imagine, tu fais une enquête avec Médiamétrie, tu reçois un appel, ils te listent les 60 radios, c'est impossible. Tu pensais que ceux qui payent y apparaissent, mais dans les faits, ce n'est pas que ça.
Est-il exact de dire que 40 à 60% des auditoristes de radio seraient des automobilistes?
Mais oui, évidemment, la radio, c'est le média de la mobilité.
Alors, je crois me souvenir que dans les années 86, une certaine jeunesse est descendue massivement dans les rues pour défendre Radio Béton. Mais ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, qui descendrait dans la rue pour nous défendre ? Est-ce que la radio n'est pas devenue un truc de vieux ? Parce que je vois beaucoup de jeunes autour de moi, oui, d'accord, podcast. Est-ce qu'il n'y a plus que les vieux croutons dans notre genre qui écoutent la radio dans leur voiture ?
La mobilisation, on l'a vu pour les retraites. Moi, je pense que la gauche n'a pas eu de victoire depuis des années, donc c'est toujours compliqué d'avoir des victoires à la rue et des grosses mobilisations. Après, pour le média de vieux, non. En fait, ce n'est pas un média de vieux, c'est un média, évidemment, qui est un peu vieillissant. Il a plus de 100 ans, c'est vrai. La technologie, c'est la même. Mais en fait, les jeunes, ils l'écoutent différemment. Maintenant, ils la voient sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, les radios un peu plus modernes essaient aussi d'évoluer. C'est fini les années 80, on n'est plus avec les fax et les Minitel. Maintenant, on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est aussi des nouveaux métiers, d'être sur TikTok, d'être sur Instagram, sur Facebook. Parfois, il y a des radios qui rajoutent de la vidéo dans leur studio. Voilà, il y a quand même des évolutions. Il y a des radios qui éditent des journaux, il y a des radios qui éditent des blogs. Donc non, je ne pense pas qu'on soit un média de vieux. Mais les auditeurs jeunes ne se rendent pas compte qu'ils écoutent de la radio. Ils le voient parfois sur d'autres choses, par d'autres canaux, et ils ne se rendent pas compte. Non, ce qui est assez flippant, c'est notamment quand tu vas dans des lycées ou dans des collèges, tu dis « qui écoute la radio ?» Il y en a quelques-uns qui lèvent la main. « Qui écoute la radio contraint avec ses parents dans la voiture ?» Là, la majorité, on va dire 90% écoutent la radio contraint avec ses parents dans la voiture, donc quand même, ils ont accès à la radio. Peut-être que plus tard, ils écouteront la radio en vieillissant. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Max et le Star System, Doc et Difool. J'ai fini en radio associative. Hein. Par contre, non, ce qui est flippant, c'est qu'ils ne lisent pas du tout la presse. Qui c'est qui a ouvert un journal ? Là, il y a des mouches qui volent. Donc, c'est plutôt ça qui est un peu flippant. Après, l'aide à la presse, il est énorme. Hein. L'aide à la presse papier, chaque année, la collectivité met de l'argent pour aider ces titres de presse à survivre aussi. Hein.
Il me semblait y avoir un autre danger planant sur nos radios associatives avant une coupe dans le budget, donc l'obligation de passer à un autre matériel avec la fameuse numérisation, qu'on en arrêterait avec le système herdien, notamment cette menace-là de numérisation et donc d'achat de matériel très cher que beaucoup de radios ne peuvent pas se payer. Est-ce que c'est fondé d'avoir cette crainte ?
Oui et non. Là, la seule difficulté, c'est qu'on nous impose d'aller sur une norme où il n'y a pas d'auditeur. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il va falloir racheter des postes radio. Et la population, elle n'est pas au courant qu'il y a cette nouvelle norme. Même dans des voitures, la fois, j'étais dans une Tesla. En fait, le mec, il ne sait pas s'il écoute en FM ou en DAB+, en numérique ou en... Mais c'est toujours la diffusion dans les airs, en fait. Ce n'est pas Internet, hein. C'est vraiment les ondes qui se baladent dans les airs.
Donc, si on a une coupure d'électricité, ça marcherait quand même ? Et le truc numérique, là, ça marcherait avec des piles ?
Tu pourras toujours recevoir avec des piles, mais il faut que ta radio ait du courant pour émettre, aussi bien en FM qu'en DAB+. Là, la difficulté, c'est qu'on nous impose une double diffusion. Avant, il y avait des radios qui avaient leur propre matériel qu'elles pouvaient acheter, rentabiliser, se faire payer l'électricité par des collectivités. Là, aujourd'hui, c'est différent. On doit se mettre d'accord avec 13 radios pour monter une société ensemble, une coquille vide, pour pouvoir ce qu'on appelle se multiplexer, c'est-à-dire mettre le signal des 13 radios dans une plaque, une espèce de collectivisation de ça. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et notamment, c'est que là, on supporte les coûts à 12. C'est aussi un intérêt pour la lutte, hein, c'est que demain, les radios commerciales, elles ont un intérêt à nous soutenir parce qu'on est sur des plaques avec des radios commerciales. Et si demain, les radios associatives disparaissent, et ben, au lieu d'être 13 dans un multiplex, les radios associatives et les radios commerciales, et ben, s'il y en a 6 qui meurent, et ben, le coût, sera, au lieu d'être supporté par 13 radios, sera plus que supporté par 7 radios, quoi.
En tout cas, l'éventuelle obligation de passer au numérique, ça menacerait aussi l'existence d'un certain nombre de radios qui sont déjà très fragiles financièrement, qui ne peuvent pas se permettre d'investir.
S'il y a un abondement et un financement derrière, ça peut être compensé. Ce n'est pas non plus des sommes extraordinaires. Hein. C'est de l'ordre de 600 euros par mois. Sur ce que le reste nous coûte, ce n'est pas non plus... Et surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'auditeur là-dessus. On ne sait pas combien il y a de postes vendus. On sait qu'il y a combien de personnes qui est couvertes. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une radio DAB+, chez tes amis ? Je crois pas. L'intérêt, il est financier. Les ondes, on en a besoin pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a la 5G. Demain, il y aura la 6G, la 7G, etc. Notre bande de fréquence, bande FM, plus tard, demain, elle pourrait être vendue à peut-être un opérateur téléphonique. En fait, on ne sait pas les évolutions qu'il va y avoir. En fait, ils veulent juste récupérer ça pour potentiellement libérer de l'espace pour pouvoir mettre autre chose, une autre utilisation.
J'entends d'une très mauvaise oreille l'abandon de la bande FM. Puisque l'heure est à la résistance, songeons que ces fréquences hertziennes pourraient devenir des fades, fréquences à défendre. Un un maquis des ondes où, comme on occuperait un coin de bocage, l'on pourrait pratiquer le jardinage radiophonique comme nos ancêtres historiques des radiopirates.
Hello, salut les pattes, ici Jean-Pat de Radio Pirate. Wouh!
Vali, 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 oh!
Radio Pirate.
Vali!
Tout le monde s'éclate.
Vali, 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 oh!
Radio Pirate.
Vali! Tout le monde s'éclate.
On a nos pubs,
pubs. On a nos pubs, pubs.
Rêve de rêvasserie radiophonico-zadiste, revenons-en au danger de mort qui menace nos radios libres. Menace qui ne concerne pas que les animateuristes de nos radios, mais qui concerne aussi au moins 2 millions d'auditeuristes et des millions de personnes qui, à un moment ou à un autre, interagissent avec leur radio locale. Ça fait du monde, Brian.
Si on met tous les publics mis bout à bout, parce qu'on parle des auditeurs, mais si on parle des gens qui font la radio, qui viennent à la radio, qui transitent par nos ateliers autour de la radio, ouais, c'est énorme. L'excuse, c'est la radio, mais en vrai, on n'est pas que de la radio, quoi. On est un peu parfois la MJC, on est un peu tout ça. Donc oui, ça fait beaucoup de monde. Si demain les radios s'arrêtent, je pense que ça va faire un grand trou, et notamment aussi sur le secteur médiatique, hein, parce que demain, les radios vont devoir chercher de l'argent ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire si on nous dit vous vendrez de la pub? Mais on va vendre de la pub. Il y a la PQR qui est là, la presse elle est là, la télé elle est là. Le marché de la pub, il n'est pas extensible. On va nous dire, vous ferez peut-être des podcasts pour des collectivités. 700 radios qui vont proposer des podcasts pour des collectivités qui ont moins d'argent, ça va être un petit peu la boucherie et combat à mort entre les radios associatives. Vous ferez de l'éducation aux médias. Non, parce qu'il faut des salariés pour faire l'éducation aux médias et que si on licencie une personne, il va falloir qu'il priorise son temps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire 2 heures de route pour donner 2 heures de cours à des élèves, puis faire 2 heures de route, donc 6 heures dans une journée? Ou est-ce que je vais rester derrière chez moi pour aller envoyer des mails, pour essayer de trouver de l'argent par un autre biais? Voilà, cette baisse, elle est vraiment importante. Alors là, aujourd'hui, c'est les radios qui se mobilisent. Demain, on l'espère, la deuxième étage de la fusée, ça serait les auditeurs. Que les auditeurs interpellent leurs politiques, leurs parlementaires, leurs sénateurs, leurs élus, pour leur dire, moi, la radio à côté de chez moi, elle est en train de mourir, aidez-la. Surtout que c'est que 10 millions à trouver. Alors, on veut bien partager l'effort, mais en fait, nous, l'effort, on le partage déjà depuis des années. Les charges augmentent, les salaires augmentent, l'électricité augmente, l'énergie, c'est important pour une radio. Elle a un émetteur, il faut qu'elle le fasse tourner. Donc nous, ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a pas d'augmentation. C'est pas la panacée. Non, nous, ce qu'on veut, c'est juste déjà maintenir l'emploi, maintenir notre activité. C'est déjà pas mal.
En tout cas, Brian, au moment de cette conversation, nous sommes le mardi 22 octobre. La question de cette menace reste en suspens avec ce budget.
Je crois que c'est jusqu'en décembre, en fait. Même s'il y a un 49-3, le gouvernement peut quand même reprendre des amendements qui ont été déposés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les groupes parlementaires déposent des amendements. L'économie des 10 millions, il faut aller le récupérer toujours dans la même ligne de budget. Donc, c'est-à-dire déshabiller Pierre pour habiller Paul. Le patrimoine a une petite augmentation. Donc, on peut faire partager cet effort à plus de lignes. Mais il y aura toujours une mobilisation et surtout, même s'il y a un 49-3, en fait, ils peuvent reprendre les amendements et les mettre dans leur 49-3. Rien n'est foutu.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de s'ébaucher en matière de réaction?
Non, on est assez surpris. Notamment, on peut remercier tous les médias qui ont repris Il y a eu un article AFP, ça a commencé doucement, un peu de presse locale, mais là on voit que les radios nationales se sont emparées, elles sont de plus en plus présentes dans nos studios, bah, ça va se mettre en place progressivement. Alors il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que les deux syndicats des radios associatives, la CNRA et le SNRL, en fait, ont monté une espèce d'intersyndicale sous une association qui s'appelle Les Locales. On avait déjà bossé ensemble sur éducation média, justement. Et là, ça a été le bon véhicule pour mener cette lutte d'une seule voix. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit, on va dire, puisqu'il y avait un peu des histoires entre les deux syndicats. Donc nous, on n'avait que deux syndicats, mais là, il y a vraiment un rapprochement entre ces deux syndicats, notamment via les locales. Nous, les mobilisations prochaines, ben, on va voir comment ça se passe, les amendements, voir si c'est un 49-3, et puis continuer. Bon, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous au Sénat avec mon sénateur, puisque évidemment, si ça passe à l'Assemblée, ensuite, ça va faire un petit tour au Sénat. Donc il faudra aller aussi alerter les sénateurs, peut-être parfois aller les réveiller pour leur dire qu'on existe aussi. Voilà, la lutte va continuer. Puis on continue à faire de la radio, hein. Donc on informe les gens, on continue à travailler, on serre les fesses, parce qu'évidemment, s'il y a une perte d'argent, ça va être sur l'année prochaine. Donc il n'y aura pas tout de suite l'impact. 2026, c'est là où ça va commencer à craindre.
Et ça va commencer à craindre dès l'année prochaine, on vous le répète, en 2025, comme on va le voir dans quelques instants avec Christophe Bedbeder, membre, comme Brian, du syndicat national des radios libres. Mais avant cela, voici peut-être une solution pour résoudre les problèmes budgétaires du pays et de nos radios. Avec la dette de la France et boucler le budget, on pourrait non seulement taxer les riches, comme le chante ici Planète Boom Boom, mais on pourrait aussi traquer les fraudes fiscales des riches, qui s'élèvent chaque année entre 80 à 100 milliards d'euros, sans mentionner cette fraude légale qu'on appelle optimisation fiscale. Bref, tous les ans, entre 80 et 100 milliards d'euros sont escamotés et ne rentrent pas dans les caisses de l'État qui fait les poches de tout le monde, et surtout celles des pauvres. Et aujourd'hui, on voudrait tuer les radios libres pour gratter 10 petits millions. On en parle avec Christophe Bedbeder du SNRL. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Avant qu'on se lance dans ce qui nous occupe aujourd'hui, donc cette menace, danger de mort qui plane sur nos radios libres, d'abord, parler un petit peu de toi. Tu es un homme de radio libre dans le Pays Basque. Et j'aimerais que tu nous parles d'abord un peu de ça, de ton parcours de radiophoniste, avant de parler de tes fonctions au Syndicat National des Radios Libres, donc le SNRL. Mais d'abord, toi et le micro, toi et la radio.
Moi et la radio, c'est dès l'enfance en fait, parce que la radio chez nous, elle était allumée du matin au soir, à partir de 6h du matin jusqu'à 21h, en permanence dans la cuisine, et chez nous c'était les radios basques. Les radios d'expression bascophone. C'était, j'ai envie de dire, le seul endroit en dehors de la famille, quasiment, et après avec les voisins, etc., parce que j'ai grandi dans un petit village, monde rural, hein, 300 habitants, où la langue basque était très présente, mais c'était un peu le seul endroit en dehors de la sphère privée où on entendait la langue, la culture, la musique, etc. Donc ça faisait partie du quotidien. Tellement partie du quotidien que on a été très tôt. C'est-à-dire les jeunes du village, hein, on était bénévoles pour la radio, c'est-à-dire qu'on participait à des campagnes de soutien pour la radio. C'est pas forcément que tous les jeunes l'écoutaient, où tous les gens l'écoutaient, mais ça faisait partie, c'était naturel. Voilà. La radio, elle faisait partie de notre vie, quoi. Et ensuite, je suis revenu à la radio, donc je suis devenu directeur du réseau des radios en langue basque, justement, mais c'est plutôt par la voie linguistique. J'étais chargé de mission en politique linguistique. Alors, ça existe un peu en Bretagne, un peu en Occitanie, etc. Mais c'est quelque chose qui est très spécifique chez nous. C'était une mission dans une agence publique hein, qui s'appelait l'Office public de la langue basque. Et je suis arrivé à la radio par ce biais. Donc, comme coordinateur, pas tant que ça au micro au début. Mais bon, une fois qu'on a les micros sous le nez, on a envie de parler. Hein. Ça fait partie. Et donc, j'ai géré le réseau des radios en langue basque pendant 10 ans, je crois, avant de devenir délégué général du syndicat national des radios libres. Ce parcours, il permet alors aussi de montrer justement la place que peut avoir une radio associative dans la vie d'un territoire. Chez nous, les radios, elles sont acteurs, elles sont reconnues ainsi de la mise en place d'une politique linguistique en faveur de la langue basque, d'une politique publique qui est portée par l'État, la région, le département et les communes. Et les radios là-dedans, elles sont reconnues, elles sont accompagnées également par des subventions. Hein. Elles sont tellement reconnues qu'elles font partie du Conseil de développement du Pays basque, des mouvements autour de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, etc. Voilà.
C'est l'une des innombrables fonctions que peuvent occuper nos radios associatives, outre le fait de diffuser la musique qu'on aime ou qu'on découvre, donner de l'information locale, sortir des studios aussi pour faire des choses avec les gens, comme des ateliers d'éducation aux médias ou de fabrication de podcasts en milieu scolaire, par exemple, mais pas seulement qu'avec des enfants. Tout simplement, l'aspect pôle de vie, c'est que au-delà des quelques salariés d'une radio, quand il y en a, il y a des centaines, voire des milliers de gens qui se retrouvent. C'est une espèce de foyer. Là, tu développais cette spécificité que vous avez au Pays basque, avec votre culture, votre langue, mais c'est quelque chose qu'on pourrait multiplier en passant par la Bretagne, par l'Occitanie, par la Corse, par la Réunion.
Tout à fait. En Outre-mer, c'est un pôle très important, ouais. Les radios associatives sont très actives.
Venons-en, si tu veux bien, au SNRL, Syndicat National des Radios Libres. J'ai compris qu'il y avait deux syndicats de radios libres. Il y a aussi le CNRA. Il y a une unité de syndicats qui font front face au danger de mort qui nous menace. Rapide historique du SNRL, c'est une histoire qui commence en 2004.
C'est ça. Historiquement, il y avait un seul syndicat, la CNRL, je crois, à l'époque, qui ensuite, effectivement, il y a eu une scission. Alors, je n'y étais pas, donc je n'ai pas les tenants et aboutissants. Hein. En février dernier, officiellement, on a créé une association entre les deux syndicats, qu'on a appelé les locales. On a toujours eu des relations hein, entre les syndicats, notamment sur les questions vraiment transversales, qui sont le financement, hein, le FSER, les questions de convention collective, etc. Donc, il y a eu des relations. Il y a un an, on a commencé à réfléchir vraiment à créer une structure commune où on se retrouve régulièrement et où on peut discuter de nos inquiétudes. Et à l'époque, ce qui nous a amené là-dessus, c'est plutôt des questions sociales. Parce qu'au niveau de notre secteur, là, de la radio, qui est en pleine mutation, mais depuis un moment, il y a un projet qui date déjà d'il y a quelques années, mais qui a été remis sur la table de création d'une convention collective qui réunit l'ensemble des secteurs de la radio. Et donc, il y a une velléité. Est-ce que c'est le dernier gouvernement, en tout cas, qui vise à limiter ou à faire un petit peu le ménage au niveau des conventions collectives? Hein, c'est là où on définit en fait les bases, ben, notamment salariales, de l'ensemble des salariés. Donc, il y a un an, quand on a commencé à se dire, bon, il faut vraiment qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. Et ensuite, on avait une autre envie. C'était bon, de se retrouver un peu plus entre les différentes organisations qui représentent les radios. Bon, il y a les deux syndicats, mais il y a également des fédérations thématiques, la Ferraroc, autour des radios chrétiennes et d'autres fédés de ce type. On se disait, bon, il faut qu'on organise un espace où on peut se réunir et puis pourquoi pas porter des projets en commun. Et l'autre projet qu'on avait en tête, c'était autour de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Donc, à partir de février, on a lancé une grande enquête nationale auprès des radios pour valoriser les actions qu'on mène en matière d'EMI. On travaille ensemble, on met en place cette structure. Et finalement, cette structure, on a bien fait de la créer parce que avec ce qui nous est tombé dessus à la rentrée, alors certes, on aurait réagi, mais on n'aurait pas été aussi efficace parce que là, on a été pris tellement de coups avec cette annonce qui visait on va dire rabotée, mais réduction drastique du FSER, qu'il était indispensable qu'on puisse réagir de suite. Un des gros boulots qu'on a eu à faire, ça a été d'informer tout le monde. Et en commençant par nos radios, parce que si nous, on a été dans un état de stupeur et de sidération, alors qu'on était quand même plutôt au suivi de l'actualité et de ce qui pouvait se tramer au niveau du ministère, hein, ou des ministères, nos radios étaient encore très loin de ça. Donc, on a su tout ça. Il y avait un énorme boulot d'information à faire. Et heureusement qu'on était déjà organisé entre nous parce qu'on a été plus efficace. Voilà. On n'a pas eu de pont à faire entre les différentes organisations pour se dire, bon, vous avez vu, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Non, là, bon, on avait déjà un groupe WhatsApp, tu vois, actif, qui a fait que on a été assez efficace d'entrée.
Ce fonds de soutien à l'expression radiophonique, à la louche, en gros, c'est 35 millions d'euros. En faire sauter 30%, ça veut dire en fait faire une soi-disant économie de 10 millions d'euros. On s'apprêterait à saccager tout un biotope des foyers de vie, de création, de rencontres, etc., pour économiser la somme ridicule de 10 millions d'euros.
C'est ça.
Donc c'est grotesque.
Oui, c'est grotesque. Du coup, l'argument de on doit participer à l'effort national d'économie ne tient pas. 10 millions sur les 60 milliards d'économies qui sont envisagées, c'est une goutte d'eau. Donc l'argument économique, dans notre cas, il ne tient pas. Ensuite, le budget de la culture a été maintenu au même niveau. Et dans le budget de la culture, le seul programme qui est impacté fortement, mais c'est le programme où il y a le FSER. Donc en fait, le FSER a été ciblé. Au sein du budget de la culture, il y a d'autres réductions, hein, sur d'autres programmes, mais pas de cette ampleur. Et là, ça a été clairement ciblé. Et on cible pour une goutte d'eau économique. Donc, la raison est ailleurs.
Alors on récapitule, une amputation de 30% du FSER, c'est la destruction annoncée de pans entiers de vie sociale et culturelle. C'est aussi un appauvrissement économique localement et nationalement. Et c'est dès l'an prochain 200 radios qui mettent la clé sous la porte, 800 emplois CDI supprimés, sans parler des autres emplois précaires et encore plus mal payés pour le travail abattu. Est-ce que tu confirmes ces chiffres?
C'est des chiffres qu'on a donnés. Alors, on va être clair, on n'a pas fait une infographie, une analyse précise de combien d'emplois, mais le calcul, il est très simple. C'est-à-dire que amputer le FSR, en gros, c'est amputer les subventions, enfin les dotations que touche chaque radio d'à peu près de cette hauteur. Selon les radios, ça signifie entre 15 et 30 000 euros. 15 000 euros par rapport à notre convention collective et les montants des salaires minimums, c'est un demi-poste. Et 30 000 euros, c'est un poste complet. C'est un équivalent temps plein. Donc le calcul de 800, il vient de là. C'est très simple. L'impact, il sera général sur toutes les radios. On a aussi donné un chiffre de 200 radios qui disparaîtraient au bout d'un an. Dans les 750 radios, il y a des typologies très différentes, hein. Mais par contre, il y a trois équivalents temps plein en moyenne dans les radios. Mais il y a tout un tas de radios qui fonctionnent avec un ou deux salariés. Ces radios-là, on leur enlève 15 ou 20 000 euros de FSER, le poste ne tient pas, c'est pas possible. Il n'y aura pas de compensation possible. Il faut pas rêver, ni avec la pub, et d'ailleurs on ne le souhaite pas, et les radios associatives, les radios libres, la très grande majorité font le choix de ne pas faire de publicité. C'est aussi un choix éditorial, je vais pas dire idéologique, c'est un choix de nature, quoi, de ces radios. Donc la publicité ne compensera pas, et les collectivités locales ne compenseront pas, d'autant qu'elles sont elle aussi fortement touchée par le projet de finances là du gouvernement. Et les autres ressources, c'est les activités qu'on peut mener par ailleurs, que ce soit des ateliers ou les partenariats avec toutes les associations, parce que c'est principalement aussi du tissu associatif qui est autour de nous. Lui aussi est touché par le projet de loi. Et s'il y a moins de salariés, tu peux faire moins d'activités. Il y a plusieurs lames. Toucher au FSER, c'est toucher aux moyens qui permettent de créer des activités, c'est toucher aux collectivités territoriales. Donc, forcément, là, c'est des radios qui disparaissent, plus les emplois qui sont touchés sur toutes les radios.
Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, oh, la vilaine Rachida Dati, coup de poignard dans le dos. C'est plus compliqué que ça. En fait, on ne sait pas d'où vient le coup.
Alors, je peux te partager ce que nous, on a partagé entre nous. Effectivement, le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le coup. Ça faisait partie des éléments qu'on aurait aimé clarifier lors de notre entretien avec le ministère. Donc on a été reçu par le cabinet du ministère de la Culture et Rachida Dati était présente. Donc ça faisait partie d'un des éléments qu'on voulait clarifier, parce que c'est important quand même de savoir qui a décidé.
Rachida Dati, en fait, elle donne l'impression de dire oui à tout, d'être prise entre le marteau et l'enclume. On dirait un lapin pris dans les phares d'une voiture.
Ouais, c'est l'impression aussi peut-être que ça a pu donner aux observateurs lors de son audition à l'Assemblée nationale là, récemment. Ce qui nous a été dit, c'est que c'était Bercy, donc le ministère des Finances, qui avait décidé. Ça, c'est l'élément qu'on nous donne. Pour une lecture plus politique, c'est compliqué. Ce qu'on peut voir, c'est que, ben, effectivement, c'est avec ce nouveau gouvernement que ça arrive. Alors, on entend le contexte de réduction économique, etc. Ceci étant, un tel coup de rabot sur le FSER, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de 40 ans de FSER. Jamais. Chaque année, on négocie. Chaque année, on discute avec le ministère. Chaque année, on fait un travail de lobbying auprès des parlementaires pour réexpliquer l'importance des radios associatives et l'importance du FSR parce que c'est mis en doute. Pourquoi pas? C'est légitime. Ça nous donne l'occasion d'en discuter. Donc, chaque année, il y a eu ce type de discussion. Il y a eu des années où le FSR a été gelé. Mais il n'y a jamais eu une décision de ce type. Et même au contraire, ces dernières années, le FSR a été renforcé. Ces 3-4 dernières années, le fonds a été augmenté d'année en année, justement pour prendre en compte l'augmentation du nombre de radios qui est liée à l'arrivée du DAB+ des fréquences numériques. Et pour prendre en compte aussi le contexte économique, l'inflation, etc., qu'on a connu les 2 dernières années. C'est nos arguments, mais c'est les arguments qui ont été portés par le propre ministère de la Culture ces dernières années auprès des parlementaires. Complètement incohérent ce qui arrive. Une incohérence de plus, et au sein même du ministère de la Culture, la ministre l'a assumé, c'est que il y a un plan culture et ruralité qui a été mis en place récemment. Et au sein de ce plan, porté par le ministère de la Culture, il y a une ligne qui vient soutenir les radios qui se trouvent en zone rurale, en zone de revitalisation rurale, et les radios d'outre-mer. Et ça a été acté, c'est une dotation complémentaire gérée au sein du FSER. Et donc, dans le même temps, en septembre, si tu veux, tu as à la fois une mesure qui vient valoriser le travail de cohésion sociale qu'effectuent ces radios-là en zone ZRR et Outre-mer, et en même temps, un coup de rabot de 10 millions qui touche toutes les radios, dont ces radios. C'est complètement incohérent, incompréhensible. Pas d'explication, pas de clarification, on ne sait pas d'où vient le coup. Alors, on a vu, on a observé, on a écouté attentivement les débats lors de la commission culture des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. La totalité des partis politiques ont dénoncé ce coup de rabot. Tous, d'extrême droite à extrême gauche, tous ont dit il faut soutenir les radios associatives. Tous. Alors après, il y a des nuances qui peuvent être importantes sur l'expression de ce soutien entre les partis qui ont soutenu un amendement pour remettre le FSER à flot et d'autres qui ont pris en compte la situation économique en disant, bon, il faut rajouter pas 12 millions, mais 5 ou 6 ou 7 ou 8 millions. Tu as des nuances là-dessus. Par contre, dans les prises de parole, tout le monde a dit, il faut soutenir les radios associatives. La ministre elle-même l'a dit. Donc, c'est quand même incohérent et incongru. Et alors, du coup, qui a pris cette décision? Si tous les partis sont OK. La ministre et le ministère de la Culture est OK, mais d'où vient cette décision? Et on n'a pas de réponse.
Ah, c'est le méchant Front National. Il y a des animateurs qui votent Front National.
Oui, bien sûr.
Et il y a des radios qui véhiculent des messages d'extrême droite, comme Courtoisie ou
Tout à fait.
localement, un ou une élue. Il a besoin de médias locaux pour se faire entendre, quelle que soit son idéologie.
D'où finalement le soutien unanime.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des modulations sur faut soutenir les radios associatives, enfin les bonnes, parce qu'il y en a des mauvaises, des confessionnelles, on dit confessionnelles en général pour pas dire musulmans.
Oui. D'ailleurs, il y a eu un amendement qui a été présenté sur la question du contrôle des radios, etc. Amendement rejeté, d'ailleurs. Moi, je trouve le sujet intéressant. C'est qui les bonnes et les mauvaises? J'ai retenu de l'intervention de la ministre, elle a parlé de la qualité des radios. Mais c'est quoi une bonne et une mauvaise radio?
Pour faire le sketch des inconnus sur les chasseurs.
Mais oui, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Finalement, cet argument, enfin, bon, on peut en sourire. On peut peut-être s'en saisir. Parce qu'il faut quand même rappeler les radios associatives et puis toute l'offre radiophonique. Chacun a ses goûts, chacun fait ses choix. C'est quoi la qualité d'une radio associative? Moi, j'ai juste envie de rappeler que les radios associatives ou libres, elles sont désignées ainsi et elles sont validées ainsi par la loi de 86 de communication. Il y a une ligne qui les définit, et elles sont définies parce qu'on leur confère une mission de communication sociale de proximité. Alors derrière ça, on peut tout mettre. La loi ne définit pas ce que c'est une communication sociale de proximité, mais c'est un peu ce que tu as décrit en intro, les missions de lien social, diversité musicale, culturelle, linguistique, tout ça. Et c'est ça, une radio associative. Une radio associative, elle est mauvaise si elle ne remplit pas sa mission de communication sociale de proximité. C'est ça la définition. C'est pas si on fait de la bonne musique ou mauvaise musique ou si les propos à l'antenne n'y plaisent pas aux uns ou aux autres. C'est est-ce qu'on remplit cette communication sociale de proximité? Et j'ai envie de dire aux députés, aux législateurs, au ministère, vous voulez parler de la qualité des radios? Ben allons-y. Mais parlons de la communication sociale de proximité. On remplit ce rôle, oui ou non? S'il y a des radios qui ne le remplissent pas, j'ai presque envie de dire, ben oui, moi je suis d'accord. Elle ne devrait pas avoir de fréquence de catégorie A et elle ne devrait pas bénéficier du FSER. Mais c'est le cas. Ces radios-là, théoriquement, en tout cas, elles sont régulées par l'ARCOM et elles n'ont pas de fréquence. Et théoriquement, lorsqu'elles présentent leur dossier au FSER, les services du ministère étudient le dossier. Et si ça ne rentre pas dans les clous, ça ne rentre pas dans les clous. Mais une bonne, mauvaise radio, ok, parlons-en. Mais c'est la communication sociale de proximité. C'est ça qui fait que les radios associatives existent. C'est ça qui fait qu'on a notre place dans le paysage audiovisuel, qu'on n'est pas des radios publiques, 100% publiques, qu'on n'est pas des radios privées qui fonctionnent à la pub et à l'audience. Donc, c'est juste rappeler à la ministre et aux députés, parlons-en de la communication sociale de proximité. Il y a un vrai sujet là-dessus.
Christophe, au moment de cette conversation, nous sommes le jeudi 24 octobre. Rien n'est joué, cette affaire de vote de budget pourrait traîner jusqu'en décembre. Le couteau est dans les airs en direction du dos des radios libres, mais il ne s'est pas encore planté. Qu'est-ce qu'on fait, nous, animateurices de ces radios, auditeurices? Qu'est-ce qu'on fait? On attend?
Ah non, on n'attend pas, surtout pas. Alors déjà, il y a eu une mobilisation formidable hein, des radios. Quand la nouvelle est tombée le 11 octobre, plusieurs n'y croyaient pas et il y a eu une mobilisation incroyable. Les radios se sont bougées partout. Alors ça m'a agréablement surpris, je ne vais pas dire nous, je ne vais pas parler au nom des autres, parce que notre secteur, il est très divers, il est très nombreux. Parfois, il est un peu endormi quand même, il ne faut pas se cacher. Hein. Et là, par contre, ça a bougé. Ça a bougé partout sur les territoires. Les radios ont commencé déjà à toucher la presse locale, à toucher leurs parlementaires. Et ça a eu un impact immédiat parce qu'il y a tout un tas de parlementaires qui se sont mis à interpeller le ministère, à interpeller Matignon aussi, quand même. On n'a pas beaucoup parlé, mais finalement, c'est quand même le Premier ministre qui a présenté la proposition de budget, donc qui, lui, l'assume entièrement. Et ça a eu pour voie de conséquence, d'ailleurs, le vote plutôt positif du 23 octobre en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Alors là, le message, c'est il faut continuer, parce que c'est loin d'être gagné. On a eu ce vote positif, mais qui est en commission. Donc le texte, il va aller à l'Assemblée nationale, il va être voté le 15 novembre. Peut arriver là un 49-3, le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre à utiliser le 49-3. Le 49-3 peut être utilisé n'importe quand. Il peut être utilisé dès maintenant, dès aujourd'hui, au moment du vote à l'Assemblée, après le vote à l'Assemblée, à tout moment. Après le vote à l'Assemblée, le texte va aller au Sénat, où il sera étudié par la Commission culture, voté au Sénat. Et après ça, en fonction des différences entre le texte voté à l'Assemblée et au Sénat, il y a une espèce de concertation entre députés et sénateurs au sein d'une commission, une CMP, qui réunit sept députés, sept sénateurs, où peuvent se prendre aussi des arbitrages. Donc là aussi, on peut avoir des changements. Et après, ce texte-là revient à l'Assemblée. Et l'Assemblée le vote. À toutes ces étapes, le gouvernement peut utiliser un 49-3. Donc c'est loin d'être gagné. Donc le message aux radios, on aura un nouveau point où on invite toutes les radios de France, de Navarre, d'Outre-mer et de partout dans le monde à se réunir pour faire un point de situation, pour leur expliquer tout ça. C'est surtout de dire, OK, on a passé une première étape. Ce qui est très positif dans le vote qu'il y a eu à l'Assemblée, c'est la quasi-totalité des groupes qui ont dit le FSER, il faut le soutenir et il faut le garder au niveau actuel. C'est-à-dire rajouter 12 millions de plus à la copie qu'a présentée le gouvernement. Ça veut dire qu'on a une base. Elle n'est pas à moins 5, moins 6 ou rabotée. La quasi-unanimité, elle est là. Donc déjà, ça, c'est un point très important même pour nos futures interlocutions aussi avec le ministère. et au Sénat. Parce qu'on a eu des retours, hein. La ministre l'a dit, elle veut chercher des solutions. OK. Le Sénat, on a eu des retours de sénateurs qui nous disent, on va vous soutenir. Par contre, on n'a pas eu de montant. Parce que nous soutenir à plus 5 millions d'euros, c'est du pareil au même, hein. C'est juste, on va prolonger l'agonie. On va pas tuer 200 radios, mais on va tuer 100. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est la réalité. Il n'est pas envisageable de toucher à ce FSR. Ce n'est pas possible. On nous aurait dit, on met en place une grande réflexion sur le monde de la radio, il faut revoir, le numérique arrive, le secteur des médias dans son ensemble vit des perturbations parce que l'économie est compliquée, la pub c'est compliqué, etc. On nous aurait dit ça, pourquoi pas? On s'assied autour d'une table, on discute. Là, c'est, allez, bam, on balance une bombe, je suis quasiment certain qu'il n'y a pas eu du tout de réflexion là-dessus. L'idée, elle n'est même pas de reconfigurer le secteur, elle est juste, bam, on balance. Et en plus, je vais aller plus loin, parce que cette réflexion, elle a eu lieu il y a un an. Il y a l'ARCOM qui avait lancé une démarche autour du livre blanc de la radio, en auditionnant tout le secteur de la radio, tous, dont les ministères, le gouvernement, etc. Tous. Il y a un livre blanc qui a été publié en juin. C'était pas il y a 2 ans, c'était en juin. Et en juin, à aucun moment, on a parlé de ça. Soyons sérieux. Pour être sérieux, c'est le FSER, on le maintient au niveau actuel. Et après, on verra. Par contre, on va rester vigilant là-dessus. Ça, c'est certain. Et donc, le message au radio, il est là. Il est surtout, surtout, il faut pas lâcher. Alors, le pas lâcher maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais c'est continuer à informer. OK, faire de la pédagogie. OK, il y a eu un vote en commission, mais c'est pas gagné. Il faut continuer. Il faut continuer à interpeller les parlementaires, les sénateurs et sénatrices sur le sujet, les ministères. Et puis, écoute, moi, j'ai envie de dire aussi, eh ben, il y a quand même une opportunité pour nous là-dedans. On n'a jamais autant parlé des radios associatives. Il faut en profiter. Il faut rappeler le boulot qu'on fait. Il faut rappeler le rôle majeur qu'on joue sur les territoires et dans le secteur de manière globale. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mon laïus sur la communication sociale de proximité. Mais bon sang, c'est ça qu'on est. Donc il faut y aller maintenant. On nous a tendu une perche finalement. On a voulu nous taper avec un bâton. Et bien, le bâton, on le saisit. Puis il faut rappeler ce qu'on fait. Et puis surtout en être très fier quand même. Très très fier, parce que si on nous a ciblés, c'est qu'on pèse quelque chose. Il faut s'en saisir. Donc là, le message au radio, il est celui-là. Donc concrètement, on est en train de mettre en place tout un tas d'actions aussi. Et puis les radios le font sur le territoire, hein. Le vote à l'Assemblée, c'est le 15 novembre. Ensuite, il y a la navette vers le Sénat et on en a jusqu'à mi-décembre, ouais. Mi-décembre. Donc c'est pas fini. On aura l'occasion de refaire une émission, je pense.
On lâche rien.
On lâche rien, voilà.
Et voilà les amis, on va clore cette émission d'urgence SOS Radio Libre en danger de mort. On écoute sur notre site polymix et la voix off.com. Merci à Christophe et Brian. On se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée, tant qu'elle émet encore. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Body, body.